Écoutez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des juifs qui soient les trois à la fois. Et c'est eux qui sont le cœur de la nation d'Israël. C'est-à-dire être Israël de par le peuple, être Israël de par la Torah, être Israël de par la terre. Bon, vous comprenez bien où ça se passe. Mais je crois même qu'au-delà même du problème géographique, qui est très important, parce que la géographie, c'est l'histoire. Mais au-delà de ce problème, il y a d'abord un problème d'identification. C'est extrêmement frappant que, jusqu'à l'émancipation, ce problème n'apparaît pas. Un juif est juif de ces trois manières à la fois. Et lorsqu'il quitte une, il quitte tout. Et lorsqu'il adopte une, il adopte tout. Je pense que c'est clair. À partir de l'émancipation, c'est un processus qui a atteint les sociétés européennes, occidentales d'ailleurs, toutes, pratiquement. Ces trois dimensions se séparent. Alors, voici le retentissement dans la société juive. Trois drapeaux différents, mais avec les mêmes couleurs, mais trois drapeaux différents, trois identités juives qui n'ont apparemment rien à voir avec elles. Par hasard, vous avez toutes les combinaisons sont possibles, et par hasard, vous avez, de façon plus ou moins inconsciente, cette unité. Mais c'est par là que ça passe. C'est lorsque les trois sont à la fois. Oui, je ne vous dirai pas je pense qu'il n'est pas nécessaire d'identifier quel type de communauté présente ces trois choses à la fois et pas les autres, mais vous le devinez tout seul. Oui. Pardon ? Quand ils sont en Israël. Oui. Et les Ashkenazes aussi d'ailleurs. Oui. Sur le verset 35 du chapitre 37, le chapitre précédent, et à propos du verset qui dit que lorsque Jacob était en deuil de la disparition de Joseph, tous ses fils et toutes ses filles l'ont consolé. Et le Midrash pose la question, que ça veut dire toutes ses filles, au pluriel, il n'y en avait qu'une seule, Dina. Alors il y a deux réponses dans le Midrash. Et de ces deux réponses apparaissent trois réponses à notre question, avec qui les enfants de Jacob se sont mariés. Et puis on va embrayer là-dessus, si vous voulez, dans le texte. Première réponse, ils sont nés comme le premier homme, mâle et femelle. Première réponse, c'est-à-dire, et nous l'avons un peu expliqué, peut-être pas suffisamment hier. Si nous sommes arrivés au stade de l'identité Adam réussie, les enfants de Jacob, alors chacun de ces enfants de Jacob est à la fois homme et femme. Pas comment on dit en français, hermaphrodite. Non, pas ça, mais un homme et une femme, comme Adam et Chava. Androgyne, oui. Non, pas androgyne, mais Zahar Kunkeva. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que Réhouven est né, il est né lui et sa jumelle. Réhouven étant le côté masculin, et le même nom étant pour les deux, comme pour Adam d'ailleurs, et puis sa jumelle étant le côté féminin. Deux individus qui ensemble sont Réhouven. Ça, c'est la première réponse. Essayons d'abord de comprendre ce que cela signifie. C'est-à-dire, l'identité humaine, selon l'enseignement de la Bible, c'est pas ou un homme ou une femme, c'est un couple. C'est le premier couple qui est appelé Adam. Bien, ceci renvoie à d'autres chapitres très très vastes, mais je me borne simplement à le signaler. Par conséquent, ce premier enseignement du Midrash, que chaque enfant de Jacob est né avec sa jumelle, qui est devenue sa femme, n'est pas difficile à comprendre, pas plus qu'à l'échelle du premier homme. Ça veut dire, voilà, l'identité humaine a réussi. Et nous sommes au stade Adam, multiplié par 12 plus 1, ça fait Israël, vous vous rappelez du premier schéma, voilà. Et donc chacun, Réhouven, Shimon, Lévi, Issachar, et ça c'est, si vous voulez, la réponse idéale. la réponse de la fin des temps. Chaque manière d'être homme a sa jumelle parfaite. Je pense que c'est clair. La deuxième réponse est de dire que, en fait, dans le courant de l'histoire, il y a des étapes différentes pour atteindre ce niveau idéal. Et dans le courant de l'histoire, réponse à la question avec qui les enfants de Jacob se sont mariés, avec leur demi-sœur, mais pas leur jumelle, chacun d'entre eux. Ça, c'est le stade ultime réussi. Chacun a épousé la jumelle de son frère du même père, mais pas de la même mère. Et ça veut dire quoi? Jacob a eu 4 femmes. Léa, Rachel, Zilpa et Bila. Et donc, nous sommes renvoyés à la situation qu'il y avait avec Abraham et Sarah. Regardez bien les textes pour Abraham et Sarah. Abraham dit de Sarah qu'elle est sa sœur. Ensuite, Abimélec dit, ah bon, elle est ta sœur, lorsqu'il voyage chez Abimélec, dans le territoire de Gaza d'ailleurs, c'était la Philistée de l'époque. Eh bien, Abimélec dit, c'est donc ta sœur, alors je la prendrai pour femme. Et puis là, Dieu se révèle à Abimélec, dit, mais tu oublies que c'est sa femme. Abimélec m'a dit que c'est sa sœur. Oui, mais c'est que tu n'as rien compris, on va essayer de comprendre. C'est qu'Abimélec n'a pas compris. Et là, le verset dit, Vegam omnam, achoti bat imi hi, velo bat avi. Elle est ma sœur, bat avi hi, velo bat imi. Elle est ma sœur par mon père, mais pas par ma mère. C'est-à-dire que le père d'Abraham et le père de Sarah sont le même homme, mais pas les mères. Donc ils sont bien frères et sœurs, mais pas par la mère, par le père. C'est une étape transitoire. Je voudrais un peu développer cela avant d'arriver à la troisième réponse, des Cananéens. Et c'est là que nous arrivons à notre chapitre 38 pour ce soir. C'est ceci. Et nous l'avons peut-être étudié une fois. Et au niveau du premier homme, il y a un progrès dans la promotion de la dignité de la personne morale. Encore au stade animal, de l'être vivant animal, il n'y a pas reconnaissance de dignité réciproque entre mâle et femelle. Il y a tout simplement, en termes biologiques, mâle et femelle. Ce sont deux dimensions de l'espèce. L'individu mâle et l'individu femelle sont tels en tant que dimension de l'espèce. Et le texte d'Hébreu est très clair. Au niveau des animaux, il y a zahar unkeva, mâle et femelle. Voilà qu'au niveau de l'homme, il y a un vis-à-vis qui commence. La femme qui était à son côté, il l'a... on traduit la côte, d'accord, mais je vais utiliser le terme de côté, vient face à face. Et il y a ish, isha, et non plus zahar ou keba. Il y a une promotion considérable. C'est une mutation de l'identité de l'individu. On est homme et femme, ce qui s'entend moins en français, parce que ce sont deux racines différentes en français, homme et femme. Mais on est ish, isha. Et après l'histoire du premier homme, et commence toute cette recherche éperdue de la construction de la fraternité et qui échoue dès le début entre Caïn et Abel. Et le mot frère ou sœur va disparaître du récit biblique jusqu'à ce qu'apparaisse Abraham. On cherche par quelle lignée humaine la capacité de fraternité pourra ressurgir. Et dès qu'apparaît Abraham, Abraham raccroche l'histoire de cette rédemption, de la promotion de la dignité de la personne, là où le premier homme l'avait laissé. Le premier homme avait fait un progrès considérable. Je n'ai pas du tout employé un schéma évolutionniste, mais simplement un schéma typologique. Je n'ai pas du tout dit que le premier homme est un animal qui a épousé sa femme et alors ça a fait l'humanité. Je n'ai pas dit cela. Mais je veux dire que, par rapport à l'espèce animale, au niveau du premier homme, il y a un progrès considérable. Il y a déjà époux et épouse. Abraham va mener les choses plus loin. Il va construire la deuxième dimension de frère et sœur. Et voilà la grande différence qu'il y a entre les civilisations de l'Antiquité au temps d'Abraham et la civilisation fondée par Abraham. Au temps des civilisations contemporaines d'Abraham, c'est resté d'ailleurs dans les dynasties d'Égypte, suivant les historiens, de sa sœur on faisait sa femme, alors qu'Abraham, de sa femme, va faire sa sœur. C'est-à-dire, il faut arriver à construire cette deuxième dimension qui manque encore. Je vous cite ici un enseignement du Khatam Sofer, il dit qu'il y a deux sortes d'amour entre l'homme et la femme. Celui qui est permis dans la maison et interdit dehors, c'est l'amour entre l'époux et l'épouse. Celui qui est permis dehors mais interdit dedans, c'est l'amour entre le frère et la sœur. Tant qu'il n'y a que l'un ou l'autre, l'amour n'est pas total, Et vous voyez ce récit qui revient trois fois dans l'histoire des patriarches. Abraham dit de sa femme qu'elle est sa sœur et on ne le comprend pas. Et il le répète une deuxième fois, de sa femme qu'elle est sa sœur. Et en fin de compte, Isaac va dire de sa femme qu'elle est sa sœur, et eux se comprennent, et ils sont enfin compris, alors le thème s'arrête, parce que c'est réussi. C'est-à-dire la construction de la relation, non seulement Ishisha, mais Achot. Alors lorsque le patriarche dit « c'est ma sœur », en parlant de sa femme, il y a une portée anthropologique beaucoup plus grande qu'un simple problème de mœurs d'état civil biologique. Vous comprenez quelle est la question. Alors je reprends donc le midrash d'hier. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est-à-dire, voilà, Abraham et Sarah arrivant à la frontière de l'Égypte. Abraham avait 100 ans et Sarah 90. Alors Abraham se tourne vers Sarah et dit « Je vois que tu es belle au bout de 100 ans, dit le Midrash. Et puis, tu diras que tu es ma sœur. Et mon nefesh, c'est-à-dire ma personne, vivra grâce à toi. » Il arrive à un stade où il découvre que sa femme n'est pas seulement sa femme, mais sa sœur. Alors, il commence à voyager pour annoncer ça au monde. Ma femme, c'est ma sœur. C'était quand même étrange, le récit du voyage d'Abraham. Qu'est-ce qu'il avait à faire dans ce voyage? Ça, dire, j'ai fait une grande découverte, ma femme, c'est ma sœur. Alors, il arrive à la frontière, il dit, ben, avec le péril que ça représente. Alors, les Égyptiens entendent, ah, c'est ta sœur, et c'est vrai, elle est belle, et bien, puisque c'est ta sœur, elle est disponible, on va la prendre. Oui, comment ça se passe? Et en fin de compte, dans le deuxième épisode avec Abimelech, mais tu m'as dit que c'est ta sœur. Et Abraham répond, mais c'est vrai, elle est aussi ma sœur. Fille du même père, même pas là. Mais ça, tu ne peux pas comprendre que, étant ma sœur, elle est ma femme, et en tant que ma femme, elle est ma sœur. Est-ce qu'on a un peu mieux compris? C'est-à-dire, c'est un message qu'Abraham envoie, et tant que ce message n'est pas compris, il le répète, et Isaac le répétera. Et puis finalement, on a fini par entendre cela, que la femme, c'est la sœur. Mais ça n'a rien à voir avec la biologie, tout ça. Est-ce que c'est clair? Je vous dirais même, il y a une indication dans le verset pour Isaac qui est assez extraordinaire. Et le verset dit ceci, « Vayhi Yitzhak metzachek im Rivka ishto » et Yitzhak riait avec Rebecca, sa femme. Regardez bien le verbe employé. Vaïi, Yitzhak, Metzachek, In Rivka, Ishto. Et c'est là que ce thème s'arrête, c'est réussi. Yitzhak, en hébreu, ça veut dire il rira à la fin des temps. C'est un figure. Il ne rit pas maintenant, il rira à la fin des temps. Le rire lui est promis. Et on voit qu'il y a un petit moment de fin des temps qui apparaît là. Quand Isaac dit à Rebecca, tu es ma sœur, et qu'elle le comprend, et qu'elle dit, il est mon frère, alors Isaac rit. Parce que c'est un moment de fin des temps. Je pense que c'est suffisamment significatif. Et voilà donc le problème. Je voudrais terminer sur cette question et ensuite vous donner la parole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à conquérir, il y a quelque chose à réussir. Nous sommes déjà au-delà du niveau de l'animalité, la sexualité mâle-femelle. Il y a déjà époux-épouse. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait aussi frère-sœur. C'est là qu'Abraham raccroche ce problème tel qu'il est dans l'état où il était. Et au moment où il émerge dans l'histoire, de l'histoire de la réascension de la dignité morale. Et donc, première réponse, c'était des jumelles. Deuxième réponse, c'était les jumelles des frères. Troisième réponse, c'était des cananéennes. Et d'ailleurs, d'autres midrashim qui se développent dans les notes que vous avez en bas de page montrent qu'il n'était pas forcé que ce soit des cananéens vraiment, c'est-à-dire des habitants du peuple de Canaan, issus de Ham. Et ils pouvaient être de n'importe quel peuple à l'origine, mais habitant le pays, la civilisation de Canaan. Et deux, on dit, des Cananéens. Là, ça atténue la difficulté du point de vue de la halakha, du point de vue de la loi, qu'on peut épouser des femmes d'autres peuples devenus juives, mais pas de Cananéennes. Vous vous rappelez qu'on s'était buté à cette difficulté-là, en particulier. Vous vous rappelez de ça? Quoique les textes que nous avons étudiés hier montrent que, à moins qu'il n'y ait un processus de transfiguration très caché, très souterrain, mais qui était apparu dans le texte que nous avons étudié concernant les prisonniers de guerre. Vous vous rappelez de cela? Lorsqu'un Cananéen a été prisonnier de guerre chez un autre peuple qui avait fait la guerre, si l'armée d'Israël délivre ses prisonniers, alors l'identité cananéenne est transfigurée chez le prisonnier et il peut entrer en Israël. C'est un exemple que j'ai choisi de ce processus de que l'histoire existentielle d'un type particulier peut débloquer cette impasse d'identité qu'il y avait dans la malédiction cananéenne. C'est le processus de la transfiguration. Eh bien, troisième réponse, donc, du Midrash, c'était des Cananéens. C'est-à-dire, dans l'intention du Midrash, il y a une unité profonde. Quel est le Batzouk d'Israël? C'est Canaan. Mais première réponse, Batzouk. Deuxième réponse, le Batzouk du frère. Troisième réponse, le Batzouk à l'échelle totale, à l'échelle absolue, le Batzouk d'Israël, c'est Eretz Canaan. Oui, une sorte de recherche de qui est l'autre avec qui le projet de la naissance messianique pourra réussir. Et nous aurons ces trois niveaux de la réponse du Midrash. Ce n'est pas n'importe quelle terre que Canaan avait choisi. Canaan avait choisi cette terre-là, qui est la terre d'Israël. Donc Canaan n'est pas n'importe qui, puisque c'est là qu'il s'est installé pour être ce qu'il a été, un pseudo-Israël, mais il est... Écoutez, je vous ouvre une parenthèse, mais en vous demandant de ne pas élargir la discussion, simplement, je vous le raconterai sous forme un peu d'anecdote. Et pour essayer de bien vous faire comprendre ce qui se passe actuellement, dans une dimension extrêmement profonde, extrêmement dramatique, entre Israël, qui réclame Eretz Israël comme étant Eretz Israël, et c'est clair en tout cas... dès qu'on l'entend en hébreu, qu'Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Et puis le peuple qui habite, les peuples d'ailleurs, les populations qui habitent ce pays lorsque les Juifs, au bout de leur exil, y sont revenus. Et d'une certaine manière, c'est très analogue. Bien entendu, nous savons qu'il s'agit de la situation d'Ishmaël, il ne s'agit plus de la situation de Canaan, enfin c'est très analogue comme problème. Qui sont ces hommes qui habitent notre pays? Et je ne vous dirai pas où, je ne vous dirai pas qui, mais enfin c'est une anecdote vécue. Je me trouvais dans un public juif, et puis après un exposé, et quelqu'un s'est levé pour me poser une question. Monsieur le rabbin, on m'appelle très souvent monsieur le rabbin, je ne sais pas pourquoi, mais enfin je vous cite la citation. Monsieur le rabbin, et les Palestiniens, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Alors j'avais d'abord la tentation de dire, quoi les Palestiniens? C'est nous, c'était un juif qui me parlait. Bon, les Palestiniens, c'est les Juifs. Mais... ce qui est vrai aussi, c'est aussi un souvenir personnel de tout le monde. Quand j'étais enfant au lycée français, chaque fois qu'un juif était premier de la classe, on entendait « les juifs en Palestine ». Et puis, en tout cas, même quand il était deuxième. En tout cas, voilà ce que j'ai répondu. J'ai répondu, eh bien, savez-vous, monsieur, les Palestiniens, on finira par faire la paix avec eux parce qu'ils habitent Eretz Israël. Mais vous qui habitez et qui fouillez les oies, je ne sais pas si on fera la paix avec vous, puisqu'il n'y a pas d'objet. Oui, à peu près, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui se considèrent dans leur pays. Quel pays Eretz Israël? C'est la même chose que Canaan. Il y a quand même une différence de nature entre tous les hommes de tous les peuples et Canaan. Canaan habite Eretz Israël. Donc il n'est pas doux, d'une certaine manière. Je vais un peu loin, enfin vous entendez un peu dans quelle perspective. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et c'est un tout autre registre que le registre politique où je me suis placé. Enfin, je pense que c'est suffisamment clair. Il n'y a aucun droit politique à Canaan sur Eretz Canaan. Ça, le Midrash le discute, ces droits-là. C'était des peuplades, je parle de Canaan, c'était des peuplades hamitiques, alors qu'Eretz Israël était dans l'héritage des sémitiques de Shem. Et ce sont des peuplades originaires des îles de la Crète, qui avait finalement conquis Kaftorim, Yotzim Kaftor, qui avait conquis le pays de Shem à l'époque. La situation historique est très différente, mais il y a une analogie formelle qui me frappe. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il y a une sorte de destination Batzouk. Voilà donc. Hein? Je dirais plutôt mérite que droit, oui, mais un certain mérite. Et ce qui me frappe, c'est cela. Il y a des hommes qui ne sont pas d'Israël, mais qui se feraient tuer pour Eretz Israël. Et ces hommes-là ne sont pas juifs. C'est pas très gentil pour les autres juifs. Enfin, bien, alors en tout cas, revenons. Bien sûr, ils changent le nom du pays, mais ils savent très bien qu'ils parlent du même pays. Bien, en tout cas, revenons à notre problème. Il y a donc une même réponse à trois niveaux. C'est la sœur jumelle, c'est la sœur jumelle de l'autre frère, et puis c'est les Cananéens. C'est là que nous étions arrivés. Donc il y a une sorte de jugement qui sera porté par le Midrash sur ce geste de Yehuda choisissant une femme cananéenne. Nous allons revoir tout de suite les versets. Je pense que vous m'aviez demandé une question tout à l'heure. Parle plus fort, j'entends.
Alors, nous avons d'abord ici, dans le commentaire, mais vous l'avez aussi sur le texte de Dieu, et le commentaire de Rashi sur le premier verset du chapitre 5. Le commentaire de Rashi sur le premier verset du chapitre 5. Rashi, Baal, Baal, et il arriva, en ce temps-là, va Yéret, Yehuda, et Echar. Et Yehuda est descendu de cette terre. Il s'est exclu, il a été exclu de l'ensemble de la communauté d'Israël, mais c'est une action évidente. Il commence sa tentative d'engendrement messianique en se mettant en dehors d'Israël. Mais pourquoi est-il mis en dehors d'Israël? C'est ce que Rashi, si on le dit là, je voudrais être clair, c'est-à-dire en dehors d'Israël, il a été séparé de cette terre. Mais rappelez-vous le thème dans lequel nous avons commencé hier, puisque Joseph est séparé, Judas est séparé. Judas séparé de Joseph, diminue d'envergure, Joseph séparé de Judas, diminue d'envergure. Et il y a une espèce de documentation de l'histoire. Il ne va reprendre que d'où, en fin de compte, le résultat, c'est la famine. C'est-à-dire la présence d'Israël est occultée, en grande parenthèse, jusqu'au moment où, la famine se faisant tellement dure, Jacob entend dire qu'il y a du blé qui pousse en Égypte. Déjà, il pourrait deviner que Joseph est là-bas et va envoyer ses enfants chez Joseph. Et lorsque la famille de Jacob se retrouvera unie, l'histoire d'Israël pourra recommencer. Bien. Alors, Rachid dit ceci, suivez avec moi. Lama nismecha parashazu le kam. Pourquoi cette paracha? C'est-à-dire, tout le chapitre concernant l'histoire des engendrements de Judas a été situé ici. Et j'explique tout de suite. Le début du chapitre 37 entreprend de raconter l'histoire de Joseph. Et au moment où Joseph est envoyé en Égypte par les caravanes, le récit de l'histoire de Joseph s'interrompt et il y a tout un grand chapitre qui est l'objet de notre étude ce soir où on nous raconte l'histoire de Judas. Il y a une sorte de parenthèse de l'histoire de Judas dans l'histoire de Joseph. Une question du Midrash. Lama nismecha parashazu lekam veifsik de parashato shel Yosef. Et il y a interruption du récit de Joseph. D'une certaine manière, pendant qu'on entreprend de nous raconter la messianité de Joseph, une grande parenthèse s'ouvre pour nous annoncer la messianité de Judas et déjà annoncer, avec la naissance des enfants de Tamar, le livre de Ruth et la naissance de David. Déjà c'est là. D'une certaine manière, on va nous dire, l'histoire de Joseph va nous occuper longtemps, mais l'histoire de Joseph a une fin. Vous rappelez Yehoseph, sauf à la fin de Joseph. Vous rappelez ça? L'histoire de Joseph est à faire, mais elle s'achèvera. Tandis que l'histoire de Judas prend une dimension d'éternité qui passera à travers David. Réponse. Les Lamèdes, pour nous enseigner, chez Oridou Houécha, que ses frères l'ont fait descendre, l'ont fait tomber. Vous voyez, le pshat du verset dit Vayered Yehuda. Judas est descendu. Dans le récit direct du verset, Judas prend l'initiative de s'occuper de lui, de s'occuper de sa descendance. Comme s'il pressent qu'à travers lui doit commencer à se préparer l'engendrement messianique, non plus l'engendrement Israël, celui-là est déjà réussi, en 12 tribus, mais l'engendrement messianique, où Israël rejoindra lui, par lequel Israël rejoindra, le salut d'Israël rejoindra le salut de l'humanité, et c'est pourquoi il faut chercher à ramener dans cet engendrement l'identité humaine qui était la plus dans la chute. D'emblée, l'homme de l'engendrement messianique cherchera à ramener dans cet engendrement l'homme du plus grand éloignement. Yehuda et Joseph, dans l'un que l'autre, vont chercher une guillorette, vont chercher une matrice humaine venue des autres lignées, mais pas n'importe quelle guillorette, pas n'importe quelle femme pouvant devenir mère en Israël, celle de la lignée la plus déchue, puisque le Messie qui doit être engendré doit être commun à Israël, à l'humanité tout entière. Par conséquent, l'humanité tout entière ne peut être sauvée que si le plus loin est sauvé. Alors, est-ce que c'est clair? Alors, voyez donc pourquoi, mais nous reprendrons cela plus en détail demain, avec Joseph et la femme de Potiphar, lorsque je vous parlerai de nouveau de l'histoire de Ruth, qui vient de Moab, qui est aussi une lignée de la chute la plus tombée. Moab descend de Lot, et de ce fameux inceste des filles de Lot avec leur père. Mais là, nous avons déjà une indication, Canaan. Canaan avait reçu la malédiction après la catastrophe après Noah. Vous vous souvenez des récits antérieurs, hein? Canaan, c'est la malédiction de Ham. Et puis voilà, d'emblée, spontanément, Judas sait où il va. Il va chez Canaan, puisqu'il est, son projet, c'est d'enfanter le Mashiach. Il faut donc y faire participer la périphérie la plus lointaine de la chute humaine. L'homme le plus tombé, Canaan. Est-ce que c'est clair? Oui, je ne suis pas ici sur un problème d'état civil au niveau de la halakha du Beddin. On m'a posé la question hier après le cours, mais c'est interdit de se marier avec une cananéenne. Mais oui, on ne parle pas de ça. Bien sûr que c'est interdit de se marier avec une cananéenne. On parle du mariage de Yehuda qui cherche à faire venir David. Vous voyez à quel niveau? C'est clair? Est-ce que le principe est suffisamment clair? Et nous allons voir aussi cet étonnement avec Joseph allant spontanément séduire la femme de Potiphar. Et puis ici, Yehuda. Mais le Midrash nous change cela. Le Pshat dit très clairement, va Yered Yehuda mère. Il va rentrer dans une dimension occultée, il cherche sa cananéenne. Pourquoi? Parce qu'il veut faire venir le Messie. Est-ce que c'est bien clair? C'est pas clair. Écoutez, je prendrai un exemple plus simple. C'est précisément la naissance de David. C'est un thème que vous entendez souvent. L'ancêtre de David est une Moabite. Et qui est cette fille de Moab? Elle est une fille des Moabites, mais transfigurée. Elle existe. Alors, le récit montre que le Sauveur viendra d'elle. Bien entendu, si l'homme d'Israël, qui est Boaz, en ce temps, est capable de ce courage que Yehuda a déjà ici, d'en accepter d'accepter l'éventualité de ce défi. Elle est là, mais est-ce qu'il est là? Et pourquoi la Bible tient à nous raconter cette histoire que qui sera l'ancêtre par les mères de David, une Moabite? C'est pas du tout pour nous expliquer que le mariage avec des femmes étrangères est permis, puisqu'il n'y a aucun problème. Il suffit que la femme étrangère devienne juive et le mariage est permis. Ça, vous savez très bien qu'il n'y a aucun mystère pour la halakha. C'est pas de là qu'on l'apprend. Mais il s'agit d'une lignée très importante, spéciale, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme au temps d'Abraham. C'était d'ailleurs son neveu, si je me souviens bien, son cousin, surtout, Ben Dodo. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et le texte en parle comme un quasi-Abraham. Lot aurait pu être Abraham. Et puis il n'a pas pu être Abraham. C'était donc la plus grande approximation d'Abraham. Il était le plus près. Et voilà que sa conduite le mène le plus loin. C'est un frère d'Abraham, à la limite, mais qui n'a pas été capable d'être Abraham. Et qu'est-ce qui se passe dans cette famille de Lot, après Sodome et Gomorre? On croit que l'humanité est perdue. Il ne reste qu'une famille, Lot et ses filles. On croit que l'humanité est perdue. Une espèce de tentative messianique, mais dans le côté impur du monde. Une tentative démoniaque, une caricature de tentative messianique. Il faut sauver l'humanité. Il ne reste plus que comme homme et femme, qu'un père et ses filles. Et il y a donc, si vous voulez, de façon souterraine, une sorte de tentative du salut de l'humanité. Donc, Moab, comme Amon, puisque Moab descend d'une des filles de l'autre et Amon de l'autre, eh bien, sont occupés à une tentative d'engendrement messianique, le salut de l'humanité, mais dans la défigure, dans l'impureté. Et c'est la lignée la plus loin de ce que sera Israël, mais qui à l'origine était la plus proche. Lot était tout près d'Abraham, et ce qu'il sort de lui sera de lignée absolument interdite, l'échec le plus grave. C'est quand dans l'échec le plus grave qu'apparaît la mort de la transfiguration que l'engendrement messianique commence à être possible. Parce que le Messie est le véhicule du salut universel. Et s'ils sauvent tous, sauf ceux qui sont plus loin, il n'est pas encore le Messie. Alors il faut donc que sa main s'étende jusqu'au plus loin. Alors c'est du plus loin qu'on prendra Ruth. Mais ça commence déjà avec Judas et Tamar. Si vous voulez, si Ruth venait de n'importe quel pays, peuple, et pas de Moab, elle peut faire des bons juifs, mais elle ne peut pas être l'ancêtre du Mashiach. Pour être l'ancêtre du Mashiach, il faut qu'elle revienne du plus loin. Donc, c'est le même thème que nous voyons. Je pense que maintenant c'est suffisamment clair. Et c'est le même thème que nous voyons. Yehuda est préoccupé de l'engendrement du Mashiach Ben David. Alors, qui va chercher la fille d'un Cananéen, Batshua. Le Midrash va être très dur. Et il dit comment, la fille d'un Cananéen, mais il avait à sa disposition quelqu'un d'autre, qui était Kacher, c'était Tamar. Hein? Et alors, en fin de compte, nous verrons comment le Midrash explique la stratégie de Dieu pour lui faire avoir quand même Tamar. Bon, je vous ai continué en tout cas. C'est plus clair qui avait posé la question. Je vous ai continué en tout cas, Rashi. Et la mèche au Ridou et Hamidulato. C'est pour nous enseigner que ses frères l'ont fait descendre de sa grandeur. Que chez Raoub et Tsarad Abihem, lorsqu'ils ont vu l'angoisse de leur père, Amrou, ils ont dit Ata Marta le Mochro. C'est toi qui as dit de vendre Joseph, en s'adressant à Yehuda. Ilou a Marta le Hashi, venu le Aviv, si tu nous avais dit de le ramener à son père, Aïnou Shomaïnar, nous t'aurions écouté. Bon, j'ai fait allusion à ce texte tout à l'heure, mais tout de suite nous allons prendre le Rashi du premier verset du chapitre 39, qui commence l'histoire de Joseph. Vous n'avez pas dans vos polycopies, vous l'avez dans le chumash. Mais je vais le lire pour tout le monde. Ve Yosef Hurad, et Joseph fut descendu. Rashi, Choser Leinyan Rishon. Le texte revient au premier sujet, c'est-à-dire l'histoire de Joseph. Et là, simplement, seulement, chez Yusikbo, il l'avait interrompu, pour joindre l'enseignement de la descente de Judas au fait de la vente de Joseph. Jusque-là, c'est clair. Loma, chez Bishwilo, Oriduo, Midulato, pour nous dire que c'est à cause du fait que Joseph a été vendu que Judas est tombé de sa grandeur. Mais d'autre part, nous savons par d'autres textes, et en particulier tous les Midrashim sur le chapitre 37, que Joseph a été jugé en bonne et due forme. Ses frères l'attendaient à un endroit près de Shrem qui s'appelle Dotania, l'endroit du jugement. Et il a été jugé de ce procès, je parlerai plus demain soir, et par conséquent, ça veut dire qu'il devait être condamné, et comme nous le verrons demain, en principe, il aurait dû être condamné à mort. Et par conséquent, il devait donc aller en Égypte. Pour bien comprendre l'intervention du Midrash ici, que cite Rashi deux fois, donc, c'est la manière dont cela a été fait, sans tenir compte Beitraneno Elenu, lorsqu'il nous a supplié de l'épargner, sans tenir compte, si vous voulez, de sa souffrance qui va être payée. Mais nous verrons ça plus en détail demain soir. Veot, mais deuxième enseignement d'Arach. Veot, Kedelismor ma ase ishto chez Potiphara, chez Potiphar, c'est pour joindre le récit que nous allons avoir dans le chapitre 38, le récit de la femme de Potiphar, les Maasé Tamar, au récit de Tamar. L'Omalecha, pour te dire, Mazou le Shem Shamaim, Avzou le Shem Shamaim. De même que l'une était désintéressée, elle n'était pas comme les filles de l'autre qui n'étaient pas désintéressées, les Shem Shamaim. J'aime pas très bien cette traduction de désintéressée. Leur intention était pure, si vous voulez. Alors, qui est celle-là dont l'intention était pure? C'est Tamar. Avzou le Shem Shamaim, celle-là aussi. Qui? La femme de Potiphar, c'est le Shem Shamaim. Avec une intention pure. Laquelle? Sauver l'humanité, comme nous allons voir tout à l'heure. Shera'ata, parce qu'elle a vu qui? La femme de Potiphar. באסטרולוגין שלה, dans son horoscope, שעתידה, qu'elle était destinée, שעתידה להעמיד בנים ממנו, d'avoir des enfants de lui, Joseph, ואינה יודעת, mais ne savait pas, אם ממנה, אם מפיתה, si c'était d'elle-même ou de sa fille, qui finalement deviendra effectivement la femme de Joseph, c'est-à-dire Asnath. Et là, ici, le Midrash aussi, Rashi nous ouvre complètement le problème. C'est-à-dire, les deux textes nous sont liés pour nous dire que se passent là deux choses parallèles et qui ont le même sens. Et ça va très loin. De nous avertir que dans tous les cas, ce qui est acquis, c'est que Tamar est l'Echem Shamaïm. Tamar sait ce qu'elle fait. Elle veut obliger Yehuda à mettre au monde l'enfant qui sera l'ancêtre de David. Alors que les enfants de Yehuda, comme nous avons vu hier, n'y arrivent pas. Ni Er pour sa part, ni Onan pour sa part, ni Shla pour la sienne. Donc c'est toute une stratégie de Tamar pour obliger Yehuda à ne pas arrêter les choses. Yehuda, en fin de compte, a essayé à une première stratégie, une première tentative, la cananéenne, c'est un échec. Les enfants de la cananéenne, bien que capables de fécondité, sont quand même stériles. Entre-temps, la femme de Yehuda est morte. Il y en avait une, elle a disparu. Et par conséquent, il n'y a plus de matrice disponible. Donc tout serait arrêté. Mais voilà que Tamar sait qu'elle porte en elle l'avenir du monde, et elle sait que Yehuda existe. Alors elle l'oblige à lui faire un enfant, si j'ose dire. Je pense que c'est clair. Et le Midrash nous dit ici tout de suite que Yehuda sait très bien ce qui se passe, et puis qu'il l'a fait quand même. Mais c'est Tamar qui en a le mérite. Parce que c'est elle qui a eu l'initiative. Elle a obligé. Et, ici le Midrash va très loin, il dit, elle était l'Ishma. Deuxième chose, et non seulement Tamar était l'Ishma, la femme de Poutifar aussi était l'Ishma. C'est dans une toute autre stratégie. Pas comme j'ai un peu indiqué hier, mais nous reverrons beaucoup plus ce point jeudi soir, la manière d'être de Yehuda le mène à chercher l'avenir dans l'antérieur, à chercher l'aide qui mènera à l'avenir dans l'antérieur, alors que la manière d'être de Joseph le mène à chercher l'aide à l'avenir dans l'extérieur, dans l'étranger, la civilisation du temps, qui était l'Égypte. Et alors, voilà quelle est la situation dans l'Égypte, et ça nous verrons plus demain. L'Égypte arrive à l'apogée de sa civilisation. Et comme toute grande civilisation à l'apogée, elle sait déjà qu'elle est condamnée, et elle sait déjà qu'elle est devenue stérile. Comment c'est traduit dans le texte? Poutifar, qui est le premier ministre, et en même temps le grand prêtre d'ailleurs de l'Égypte, est eunuque. Il ne peut plus donc avoir d'enfant. Mais il a une femme qui, elle, est féconda, c'est la matrice de l'identité égyptienne. Et dès qu'elle voit arriver chez elle Joseph, l'hébreu, elle sait que c'est lui qui sera le fécondateur. Mais en vue de quoi? En vue d'une petite histoire d'Alcor, comme je disais hier, ça c'est pas les récits bibliques, ils sont pas dans la mythologie grecque. Voilà. En vue du salut du monde. Parce que elle sait que avec Joseph comme fécondateur, si j'ose dire, l'engendrement continuera pour à l'échelle de l'universel humain. Mais elle ne le sait pas très bien, dit le Midrash. Elle ne sait pas très bien si c'est par elle que ça doit passer ou par sa fille Asnath. En fait, nous verrons que Joseph, lui, devant le danger que représente que l'identité hébraïque se dénature devenant égyptienne, finalement, au dernier moment, se reprend et il épousera Asnath, qui est juive d'origine, enfin, qui est la fille de sa sœur, qui est la fille de Dina. Mais tout cela, nous le verrons plus en détail demain. Voilà donc un midrash extrêmement important, que les deux sont l'Ishma,